franceinter.fr.
Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
Et dans la presse ce matin, grand et petit fléau.
Et avant d'en venir à l'organisation État islamique et au chômage, il y a tout de même de bonnes nouvelles dans la presse. Le Figaro détaille ce matin un chiffre donné lors du congrès annuel de la Société américaine de cancérologie. Aujourd'hui, 4 enfants sur 5 atteints d'un cancer en guérissent. On parle des petits patients de moins de 15 ans. Et ce chiffre dit les immenses progrès de la science contre ce fléau. Il y a 50 ans, 4 enfants sur 5 touchés par la maladie en mouraient. La proportion s'est inversée en 50 ans. Une bonne nouvelle, avant de parler des fléaux du jour. Et ce tableau brossé par Alaa Qodmani dans Libération, en Syrie et en Irak. Une partie de la population est en train d'accepter le joug de l'État islamique. Ce constat d'abord. À Palmyre, pour l'instant, les djihadistes se comportent avec une étonnante souplesse. Ils n'ont pas touché au site historique. L'organisation avait à peine pris la ville en main que des techniciens sont venus de Raqqa, sa capitale, pour rétablir l'électricité et les connexions Internet. Les fonctionnaires sont restés en poste, salaire payé d'avance, nouveau matériel médical. L'interdiction du tabac, le port du niqab obligatoire n'ont pas encore été appliqués à Palmyre.
Particularité des habitants de Palmyre, ils sont passés sans transition de la férule du régime de Bachar el-Assad à celle de l'État islamique.
Et les djihadistes ont cherché à gagner la confiance des habitants. Bien sûr, le souvenir des exactions demeure, mais à Palmyre, Raqqa ou à Mossoul en Irak, en ces temps où l'important est de survivre, écrit Alaa Qodmani, l'ordre totalitaire de l'État islamique assure une vie quotidienne décente. On parle désormais de fatalité. En l'absence d'opposition ou de dissuasion crédible, le califat gagne en confiance et en prestige. Des salaires payés, l'électricité rétablie, du matériel utilisable pour les médecins, l'organisation peut fournir tout cela parce qu'elle est riche, s'appuyant notamment sur un reportage du magazine Capital, du magazine d'M6 Capital, qui sera diffusé le 14 juin. Le quotidien L'Opinion montre ce matin comment l'organisation État islamique finance son djihad. Voici une file de camions à la frontière turque. Ils transportent des matériaux de construction, des conserves, des biscuits, etc. Direction les zones contrôlées par l'organisation en Syrie. Les marchandises sont payées via des sociétés de transfert d'argent. Au passage, l'État islamique préserve sa dîme. Entre Syrie et Irak, il règne désormais sur une zone équivalente à la Belgique. Taxes de route, impôts douaniers, droits de passage, plus les richesses des territoires contrôlés. Mines de phosphate ou de sel, usines d'engrais, cimenteries, 80% de la production de coton syrienne, 40% des céréales en Irak. Plus le pétrole, moins mais encore un peu, les devises des banques, les rançons, le racket, la collecte de fonds sur Internet. Budget estimé pour cette année, 2 milliards de dollars. Comme dans n'importe quelle grande entreprise, il y a un staff financier qui gère tout cela. Bachar ou le calife, la dictature ou le fascisme religieux, dans les colonnes de l'Humanité, deux voix du monde arabe examinent cette terrible alternative. Dictateurs et extrémistes ont besoin les uns des autres, dit l'égyptien Alaa el-Aswani. En Algérie, nous avons été pris dans le même piège, lui répond un autre écrivain, Kamel Daoud. Mais l'égyptien garde espoir, même en ce moment de violents ressacs pour les révolutions arabes. C'est une révolution de la jeunesse, dit Alaa el-Aswani, dans laquelle le rapport entre générations est décisif. Nous avons besoin de temps. Plus de 60% des Égyptiens ont moins de 30 ans.
À la une des Échos, Valls face à l'échec de la lutte contre le chômage.
Manuel Valls et François Hollande. Rappel de Bruno Dive dans Sud-Ouest. Le président avait expliqué il y a un an que si le chômage ne baissait pas d'ici à 2017, il n'aurait aucune raison d'être candidat. Et le voici qui repart déjà en campagne, 2 ans avant l'échéance, alors que le chômage continue d'augmenter. Cela pèse de plus en plus lourd dans le bilan du quinquennat. Le temps presse, ajoute Bernard Stéphane dans La Montagne. Et Jean-Michel Servan enfonce le clou dans Midi Libre, quel que soit l'adversaire. La gauche ne gagnera pas en 2017 avec un bilan économique aussi catastrophique. Il y aura un bilan à défendre aussi dans la lutte contre la précarité. L'INSEE, en affinant ses données, vient de fournir un nouvel éclairage sur ce sujet repris par La Croix. La pauvreté, affaire de périphérie, pense-t-on? Eh bien non, les centres-villes se sont considérablement appauvris. Dans les 230 plus grandes agglomérations de France, la part des ménages vivant sous le seuil de pauvreté est de 20% supérieure dans le centre à celle observée en couronne. Dans le centre, on trouve plus de familles monoparentales, de familles nombreuses, de jeunes, autant de catégories plus exposées à la précarité, des gens très pauvres aussi qui viennent dans les centres parce que le réseau d'aide y est plus dense. L'année dernière, les centres-villes de de Auch dans le Gers et de Guéret dans la Creuse sont entrés dans la liste des territoires prioritaires.
Un petit fléau dans les collèges et lycées.
Ce fléau s'appelle le chip. Kézako, eh bien, c'est un petit bruit de bouche très répandu dans les sociétés africaines, caribéennes et maintenant aux États-Unis et en Europe. Même la ministre de la Justice, Christiane Taubira, chip, elle s'en expliquait récemment à notre consoeur de Canal et iTélé, Laurent Saïm, qui lui demandait sa réaction aux attaques racistes qu'elle subit.
Il y a quelque chose qu'on fait dans la société créole, ça s'appelle un chip. C'est un concentré de dédain.
Dédain et même davantage, parfois cela peut relever de l'insulte et à propos de tout et n'importe quoi, le PSG, la vertu de votre maman ou le prof de maths, à tel point que dans certains collèges et lycées, le chip est devenu un problème et certains établissements l'interdisent désormais, c'est à lire dans le Parisien. Une autre controverse va-t-elle monter dans l'éducation nationale ? Celle à propos des bourses au mérite, attribuées aux bacheliers mention très bien. Le gouvernement voulait les supprimer dans un premier temps pour mieux concentrer les fonds sur les bourses sur critères sociaux. Le gouvernement avait reculé, mais un décret vient de paraître qui divise le montant des bourses au mérite par deux. Le Figaro et les Échos s'en émeuvent. Le gouvernement donne une fois de plus le sentiment de privilégier des dispositifs égalitaires au détriment des filières d'excellence, écrit Étienne Lefebvre dans les Échos.
Quoi d'autre dans la presse, Bruno ?
Ne pas donner en revanche le sentiment qu'on soutient les élites à tout prix. Dans le Parisien, la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, annonce avoir saisi la justice du cas d'Agnès Salle, l'ex-patronne de l'INA, remerciée pour avoir abusé des notes de taxi. La ministre essaie peut-être de rattraper une bourde. Le recasage d'Agnès Salle au ministère de la Culture a fait jaser et mis François Hollande en colère. Un transgenre à la une de Vanity Fair, édition États-Unis. La velette de la télé-réalité Bruce Jenner fait l'événement en body bustier de satin blanc. Appelez-moi Caitlyn. Gros succès sur les réseaux sociaux. Le magazine Têtu en redressement judiciaire pour 4 mois. Son propriétaire cherche des investisseurs, c'est à lire dans les Échos. Et puis sur le Parisien, vous lirez l'histoire de Josiane Grattepanche, cette dame de 76 ans et mariée depuis 16 ans sans le savoir. Tous les documents sont en règle à la mairie de Rueil, y compris sa signature en bas de l'acte de mariage. Mais elle dit ne pas connaître le monsieur qui prétend être son époux et qui vit désormais en Algérie. Est-ce que Josiane Grattepanche perd la tête ou est-ce qu'il y a usurpation d'identité ? Vous avez le choix entre deux fléaux. À demain.
Merci, c'était Bruno Duvic pour la revue de presse sur Inter. Et puis il y a... À la une de Libération, Thomas Thévenoud, l'ancien secrétaire d'État qui avait oublié pendant plusieurs années de déclarer ses revenus au fisc. Il est aujourd'hui, après avoir dû démissionner de son poste de secrétaire d'État, poursuivi pour fraude fiscale. Je précise cette une de Libération avec cette très curieuse photo où on peut parler quoi d'une sorte de figure gymnique, jambes écartées dans un couloir. Thomas Thévenoud, aujourd'hui poursuivi pour fraude fiscale, il dénonce un acharnement. Vous avez dirigé en partie cette administration de Bercy, Pierre Moscovici. Il a raison de parler d'acharnement, Thomas Thévenoud ?
Je ne la dirige plus. Il s'agit d'une procédure en cours sur laquelle je n'ai évidemment aucun commentaire. Mais il ne vous aura pas échappé que je suis aussi commissaire à la fiscalité en Europe. Et de ce point de vue-là, il y a des exigences qui doivent être respectées, celles de la justice, de la transparence, de l'exemplarité.
Donc l'exemplarité, c'est ce qui doit conduire aussi les responsables publics à... être éventuellement poursuivis quand ils ne se sont pas montrés exactement.
Il est certain qu'un responsable public n'est pas à l'abri, mais je n'ai pas les données du problème.
Pierre Moscovici
ne doit pas être à l'abri.
On vous retrouve dans
il doit être encore plus exemplaire que quiconque.
Très bien, on vous retrouve dans quelques minutes.